Le journal Alexandra Dubouchereau. Bonjour Alexandra.
Bonjour à tous. Et d'abord, c'est une première. Un établissement français dans le top 15 du classement de Shanghai qui recense les meilleures universités au monde. Il s'agit de Paris-Saclay dans l'Essonne. On en parle dans un instant. Face au coronavirus, la menace du masque partout dans toutes les rues. À Paris, on y pense sérieusement. Les indicateurs ne sont pas bons à 2 semaines de la rentrée. Nous irons aussi dans le Pays Basque où l'on jongle entre règles sanitaires espagnoles et françaises. Pas la même rigueur partout. Et puis l'inquiétude en Inde, le virus gagne les campagnes, reportage à suivre. Dans ce journal encore, la place de la femme n'est pas suffisante dans l'église aujourd'hui, propos signé Thierry Magnin, le porte-parole de la conférence des évêques de France. Il était l'invité d'Inter ce matin. L'OL affronte Manchester City à 21h en quart de finale de la Ligue des Champions ce soir. Et puis hommage populaire à Guy Bedos à Aix-en-Provence tout à l'heure.
France Inter.
Elle fait donc désormais partie des meilleures formations au monde. L'université Paris-Saclay dans l'Essonne se classe 14e du célèbre classement de Shanghai publié ce matin. Bonjour Maxime Deps.
Bonjour.
Alors on peut dire cocorico, un tel niveau n'a jamais été atteint par la France depuis la création de ce palmarès en 2013.
Ouais, et c'est une fierté, clairement, vous l'imaginez, pour tout le personnel de l'université aujourd'hui dont fait partie Sylvie Pommier, vice-présidente adjointe chargée du doctorat à Paris-Saclay, qui se rapproche donc du podium et des prestigieuses Harvard, Stanford et Cambridge.
Bah là, on est arrivé à la 14e place, donc on est plus si loin. Donc c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, ça fait vraiment très plaisir. Et puis pour nos étudiants, c'est une vraie reconnaissance aussi, parce que c'est près de 60 000 étudiants qui vont pouvoir faire état d'un diplôme reconnu au niveau international. Donc c'est vraiment une excellence pour un grand nombre d'étudiants.
Paris-Saclay déjà couronné de la première place thématique en mathématiques il y a 2 mois devant les Américains de Princeton. Il faut dire que pour en arriver là, l'intégration en son sein depuis le 1er janvier de 4 grandes écoles, parmi lesquelles Centrale Supélec, a joué notamment Paris-Saclay, devenu un véritable mastodonte avec près de 48 000 étudiants, 9 000 chercheurs, près de 300 laboratoires. La politique de regroupement des établissements d'enseignement supérieur impulsée par les gouvernements successifs depuis plus d'une décennie semble aujourd'hui jouer en sa faveur.
Ce classement de Shanghai, merci Maxime Deps, est dominé encore une fois cette année par Harvard. Et cette année, 5 universités françaises font partie du top 100. Paris-Saclay donc, Paris Sciences et Lettres 36e, l'Université de Paris 65e et l'Université Grenoble-Alpes 99e. C'est une question qui fait de plus en plus débat. La place des femmes dans l'Église catholique en France. On a beaucoup parlé cette année du combat d'Anne Soupa, l'écrivaine et théologienne qui s'est portée candidate pour devenir archevêque de Lyon. Provocation pour certains, évolution nécessaire pour d'autres. Et au sein même de l'institution, l'idée fait son chemin. Ce matin, à l'occasion du 15 août, la fête catholique de l'Assomption, l'invité d'Inter était le secrétaire général et porte-parole de la conférence des évêques de France, Thierry Magnin. Et pour ce haut responsable catholique, c'est assez rare pour être souligné, il faut envisager la question de l'ordination des femmes dans l'Église.
La grosse question est celle des ministères ordonnés, d'évêques, de prêtres et de diacres. Jusqu'à présent, l'Église catholique ne s'est pas senti le droit d'ouvrir ses ministères ordonnés aux femmes. La question se pose, se repose en ce moment assez fortement. Elle est posée en Allemagne très explicitement. On ne bouge pas une tradition séculaire comme ça si facilement. Et il faut aussi que les arguments théologiques soient suffisamment travaillés. Et c'est ça qui est en cours. Et comme je vous le disais, il y a des ministères ordonnés, il y a d'autres formes de service, des ministères non ordonnés dans lesquels il y a de fortes responsabilités également. Vous avez vu aussi que le pape François a nommé 6 femmes récemment dans une commission du Vatican sur les questions économiques, c'est-à-dire une reconnaissance importante. On progresse et sans doute faut-il aller davantage dans le sens de cette recherche-là, oui.
Le père Thierry Magnin, porte-parole de la conférence des évêques de France, il répondait à Laetitia Gaillet ce matin sur France Inter. Entretien complet à retrouver sur franceinter.fr. À Lourdes cette année, le pèlerinage du 15 août est masqué et limité. 10 000 pèlerins contre 25 000 d'habitude dans le sanctuaire. De nombreux malades ont renoncé au déplacement et seules 5 000 personnes, c'est la jauge nationale, ont pu entrer ce matin dans l'enceinte de la basilique pour la traditionnelle messe de l'Assomption. Faut-il aller encore plus loin avec les masques pour contrer le coronavirus. Ces derniers jours, les appels dans ce sens, dans le milieu médical et au sein du gouvernement, se multiplient. Et ce matin, le Haut Conseil français de la santé publique le recommande même dans tous les lieux clos collectifs, y compris dans les lieux privés. Le port du masque, qui est d'ailleurs étendu à Paris depuis aujourd'hui, on ne parle plus de rue, mais de quartiers entiers concernés par cette obligation. Le Louvre, les Champs-Élysées, par exemple. Et le préfet de police de Paris a prévenu hier, en cas de dégradation de la situation épidémiologique, le masque pourrait être généralisé à toute la ville. Réaction de la mairie ce matin, ce n'est pas souhaitable, mais sans doute inévitable. Anne Souiri, c'est l'adjointe à la santé de la capitale.
Là, pour l'instant, on a une ville à Paris qui est moitié vide, parce que les Parisiens ne sont pas encore rentrés. Donc, du coup, vous allez avoir à la rentrée plus de densité dans certaines zones. C'est possible que soit nous élargissions certaines zones, soit que la préfecture décide de passer à l'ensemble de Paris. Mais pour le moment, le mieux, c'est vraiment simplement d'obéir à la logique des choses qui veut que quand c'est dense, quand vous ne pouvez pas vous protéger, que vous ne pouvez pas rester à un mètre des gens, vous mettez un masque. Si on doit arriver à une extension généralisée à Paris, on le fera. C'est franchement pas souhaitable. Nous verrons bien. L'important, c'est que chacun soit protégé.
Anne Souiri, adjointe à la mairie de Paris avec Léo Tachère pour France Inter. Au-delà de l'extension du port du masque dans la capitale, il est désormais interdit de se rassembler à plus de 10 si les mesures barrières ne peuvent pas être respectées. Paris qui, comme Marseille, est considéré depuis hier comme une zone rouge de circulation du virus. Le taux de positivité au test y est de plus de 4% contre 2,4% en moyenne dans le reste de l'Hexagone. À l'échelle nationale, les indicateurs se sont encore dégradés hier avec 2800 nouveaux cas de contamination en 24 heures, l'un des plus lourds bilans depuis le début du déconfinement. En France, les autorités ont choisi de faire de la dentelle, masque obligatoire par endroit, dérogation autorisée dans d'autres. Le Puy du Fou, par exemple, pourra accueillir 9000 personnes ce soir pour sa ciné-sénie. Une disparité des consignes sanitaires qui tranche avec la rigueur de nos voisins espagnols. Dans le pays, le masque est désormais obligatoire partout. Et à la frontière, eh bien, il y a le Pays Basque, Sébastien Sabiron. Étrange situation pour ses habitants à l'heure du coronavirus.
Dans les rues de Hendaye, le port du masque est simplement conseillé. Mais dans la navette qui traverse la Bidassoa, le fleuve côtier séparant la France et l'Espagne, la consigne est claire, masque obligatoire partout. L'armateur du bateau, Christian Leguet.
Il y a deux navettes qui se partagent la ligne, un bateau espagnol et un bateau français. Donc au moment de la reprise, on s'est mis d'accord pour appliquer les mêmes règles.
10 minutes de traversée, puis débarquement à Fontarabi, côté espagnol. L'Ertzaintza, la police basque, patrouille dans le port.
On s'est fait contrôler là, parce qu'il y en avait qui avaient le masque un peu sur le menton. Mais... bon, pas d'amende, mais bon, ils se sont fait réprimander. C'est sûr que c'est plus strict en Espagne.
100 euros d'amende en cas de non-port du masque. Alors, tout le monde joue le jeu, jusque sur les terrasses des bars à tapas.
Par exemple, on est arrivé tout à l'heure pour déjeuner. On pensait qu'on pouvait s'installer tout seul. Et on nous a dit non, on va vous installer. Ne touchez pas les chaises ni les tables parce que le Covid. Je trouve qu'il y a quand même plus d'attention qu'en France. Ouais.
Rassurant pour Christina, espagnole, qui déplore un certain contraste avec la France toute proche.
Je pense que ça sera bien qu'on harmonise un peu ce qu'il y a fait partout en Europe. Parce qu'on peut bouger. Et la libre circulation des services, libre circulation des personnes. Donc ça n'a pas du sens qu'il y en a certains pays, certaines régions, on impose des règles très strictes, et d'autres, il n'y en a pas.
Mais pour l'heure, les touristes gardent un même réflexe dès leur retour en France.
Au revoir, bonne journée.
Tomber le masque pour humer l'air de l'océan. Hendaye, Sébastien Sabiron, France Inter.
Le coronavirus en Inde, dans le pays hier encore, on a enregistré la plus forte hausse quotidienne des contaminations au monde. Et si les villes indiennes parviennent à contenir la pandémie, ce n'est pas le cas des campagnes sous-équipées, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Com Bastin.
Face à l'explosion de la pandémie, le parc des expositions de Bangalore avait été transformé en gigantesque centre anti-Covid, mais de l'aveu même des autorités, il n'a jamais été rempli. Comme Delhi ou Bombay, la grande ville du sud contient peu à peu l'épidémie. Le directeur d'un hôpital de quartier, le docteur Stephen Anthony, témoigne.
Nous refusons beaucoup de patients en admission parce que la plupart ont juste besoin d'être placés en quarantaine. Désormais, notre hôpital arrive à gérer le Covid-19. À Bangalore, il y a désormais assez de lits et pour les patients les plus pauvres, le gouvernement prend en charge une partie des dépenses médicales.
Il y a un mois, la moitié des nouveaux cas journaliers détectés dans l'état du Karnataka provenaient de sa capitale Bangalore. Hier, trois quarts des cas déclarés provenaient des villages et villes moyennes. Selon Rijo John, économiste de la santé et consultant auprès de l'OMS, ce phénomène concerne toute l'Inde.
Les plus grandes villes ont été les premières à être dépassées par la pandémie, mais aujourd'hui, ce sont les campagnes indiennes qui voient le virus croître le plus rapidement. De plus, les capacités de tests sont déficientes en zone rurale, donc les chiffres pourraient être bien plus élevés.
L'Inde a enregistré hier 67 000 nouveaux cas, soit plus que les États-Unis ou le Brésil. Le déploiement de ressources médicales dans les villages sera le grand défi des mois à venir. Côme Bastin, Bangalore, France Inter.
Des milliers de manifestants sont de nouveau rassemblés en ce moment dans les rues de Minsk, la capitale biélorusse, pour le sixième jour de suite. Ils dénoncent la réélection le week-end dernier de l'autocrate Alexandre Loukachenko. Les grèves aussi se poursuivent et font tache d'huile dans les usines d'État. Avec la menace de nouvelles sanctions décidées hier par l'Union européenne, le pouvoir a bien tenté de lâcher du lest en annonçant la libération de 2000 manifestants sur les 6700 emprisonnés ces derniers jours. Mais la colère ne faiblit pas, elle est même ravivée par les témoignages de ceux qui sortent de prison et qui racontent les sévices. Le reportage de Valentin Tiblinski à Minsk pour France Inter.
Nous sommes devant le centre de détention à Khrestina, à 10 minutes seulement en voiture du centre-ville. Des dizaines de familles viennent ici jour et nuit pour savoir si leurs proches sont ici. Près de 7000 personnes ont été arrêtées. Derrière ces murs en briques rouges, sous le regard des snipers sur les toits, il y a ceux qui ont simplement voulu des changements pour leur pays. Une mère vient de retrouver son fils. Elle tombe en larmes. Quelques minutes plus tard, un jeune homme de 17 ans retrouve enfin sa famille. Sa mère témoigne. Nous avons tous des enfants, nous avons tous des parents, même ceux qui travaillent ici. Hier, j'ai vu un gardien qui appelait sa mère pour lui dire que tout va bien. Pourquoi nos enfants ne peuvent pas nous contacter et nous dire qu'ils sont détenus, mais en vie? Car nous les cherchons depuis 4 jours. Au-delà de l'émotion, son fils nous raconte le véritable enfer qu'il a vécu derrière ses murs. Le policier m'a dit « De quoi tu t'es mêlé ?» Il a commencé à me frapper sur le visage. Après, ils m'ont posé près des murs, à genoux. On devait baisser la tête. Un gardien nous frappait en nous appelant les fascistes. Sur place, c'est un sentiment d'injustice qui domine. L'Union européenne annonce des nouvelles sanctions ciblées contre les autorités biélorusses, mais aucun mot pour ces démocrates qui ont envie des changements. Ils ont été humiliés, torturés, mais les portes de l'Europe sont toujours fermées pour eux.
Et selon les médias d'État biélorusses, ce matin, le président contesté Alexandre Loukachenko s'est entretenu avec Vladimir Poutine tout à l'heure, son homologue russe, pourtant allié du pouvoir à Minsk, qui était resté silencieux jusqu'ici.
France Inter, le journal de 13h, Alexandra Dubouchereau.
Au lendemain du score historique décroché par le Bayern Munich à Lisbonne, 8-2 contre le FC Barcelone en Ligue des Champions de football, place aux Lyonnais ce soir, quart de finale contre les Anglais de Manchester City. L'OL espère rejoindre le PSG en demi-finale, le seul autre club tricolore en lice. Mais l'ambiance cette année n'est pas au rendez-vous, le match est à huis clos. Et à l'entraînement hier, Emma Sarango, vous n'avez vu qu'un seul Lyonnais, un seul fan lyonnais, Morgan, 32 ans, expatrié dans la capitale portugaise. Mais Emma, au moins, c'est un vrai fan.
Un papa, fan des Verts. Un oncle, fan des Verts. Le destin footballistique de Morgan était tout tracé. Et pourtant, à 10 ans, à la fin des années 90...
L'OL commençait à grandir petit à petit. Puis il y a eu la signature de Sonny Anderson qui a tout changé. J'étais le seul de la famille, mais j'ai résisté.
Entre ses 10 et 25 ans, Morgan suit son club partout en Coupe d'Europe.
Rome, Munich, Barcelone, Madrid... C'est toujours l'occasion de voyager.
En arrivant à Lisbonne il y a 4 ans, Morgan prend un abonnement pour suivre la Ligue 1. En octobre, il est évidemment à l'Estadio da Luz quand Lyon vient s'incliner face au Benfica. Et vendredi dernier, pour le match qui qualifiera l'OL face à la Juventus Turin, il est par pur hasard à Funchal, sur l'île de Madère, chez Cristiano Ronaldo.
C'était assez marrant de voir les habitants de Funchal, tous avec le maillot de la Juve. J'étais le seul avec le maillot de l'OL.
Son club en quart de finale de Ligue des Champions et chez lui à Lisbonne, Morgan ne pouvait pas rêver mieux. Sauf peut-être un autre adversaire que Manchester City.
Ils ont un top player à chaque poste, ils ont un top entraîneur. Si je dois donner en termes de pourcentage et en étant objectif, 30%.
Et si les probabilités étaient démenties et si Lyon l'emportait, Morgan foncerait ce soir à Cascais, à 30 km de Lisbonne, pour attendre les Gaunes devant leur hôtel. Même s'il est seul.
Un reportage signé Massarongo à Lisbonne pour France Inter. Lyon-Manchester City, quart de finale de la Ligue des Champions. Coup d'envoi à 21h ce soir et le vainqueur affrontera le Bayern Munich en demi. Et puis en cyclisme, l'abandon d'Egan Bernal sur le critérium du Dauphiné, souffrant de problèmes de dos. Il n'a pas pris le départ de la 4e étape aujourd'hui entre Ugine et Megève. Le Colombien avait remporté le Tour de France l'an dernier. On se souvient de Guy Bedos à Aix-en-Provence. Ce soir, les amis de l'humoriste disparaissent disparu le 28 mai dernier à 85 ans, vont lui rendre hommage en jouant ses meilleurs sketchs au Parc Jourdan. C'est une initiative du comédien et humoriste Marc Jolivet. Il était frustré en mai dernier que la pandémie empêche d'organiser un grand hommage sur scène. Il se confie à Jacqueline Pétrose.
Cet homme-là, c'est lui qui m'a donné l'envie de devenir humoriste. Donc j'ai appelé Michel Drucker, je savais qu'ils étaient très amis. Michel va nous raconter des anecdotes que personne ne connaît. Moi je vais faire des imitations de Guy, j'adore faire ça. Marrakech, j'ai eu l'idée de faire jouer Carton Rose à Pierre Palmade. Et ça a amusé Pierre, et Alex Vizorek et Andrea Ferréol vont faire la drague, mais la drague 2020 avec des masques, des visières et des gants. Maintenant, il faut sauver le spectacle vivant. Et ben, pour le sauver, il faut jouer en plein air, gratuitement. Il faut jouer, il faut y aller. Et il faut absolument toutes les consignes de sécurité. Mais si les mairies nous aident, eh bien, on va jouer à l'extérieur. Les gens seront heureux. Et c'est un miracle d'arriver à faire ça le 15 août. En tous les cas, cet homme, oui, qui avait un sacré caractère, eh bien, je suis content que nous lui rendions hommage.
Qu'est-ce qu'il est collant, ce type?
Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Gélo. Attaque.
Voilà, extrait du sketch La Drague avec Sophie Domier en 1973. Hommage à Guy Bedos ce soir dès 20h au Parc Jourdan à Aix-en-Provence. Et une collecte pour la Croix-Rouge et les soignants est aussi prévue. Circulation dense sur les routes de France pour ce week-end du 15 août. Bison Futé l'avait prévu. C'était orange dans les deux sens et même rouge autour de la Méditerranée en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Diane Sprimont, vous êtes au PC Mobilité de Radio France. Bonjour.
Bonjour.
Et Diane, ça se confirme sur l'A7 dans la vallée du Rhône.
Oui, c'est très compliqué avec plusieurs secteurs saturés en direction de Marseille sur l'A7. On compte ce midi 47 km de bouchons de Saulce dans la Drôme jusqu'à Bolène dans le Vaucluse. Toujours dans la Drôme, 22 km de bouchons aussi de Mercurolles jusqu'à Étoile. Donc ce midi, il faut compter presque 2 heures au lieu de 30 minutes de route de Montélimar jusqu'à Orange. Dans le sens inverse, en direction de Lyon, des ralentissements aussi sur 20 km entre Orange et Bolène. Et puis attention à Bolène, puisqu'il y a eu un accident entre deux voitures qui se trouvent sur la file de droite. Et dans les Bouches-du-Rhône, c'est compliqué aussi sur l'A8 en direction d'Aix-en-Provence avec ses 10 km de bouchons depuis Châteauneuf-le-Rouge.
Merci Diane. Le temps, c'est avec Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Cet après-midi, prévoyez un ciel chaotique le long de la façade atlantique avec des averses orageuses sur les côtes du Morbihan et du Sud Finistère. Partout ailleurs, le soleil sera de la partie. Un bémol tout de même, vous aurez un peu plus de nuages le long des frontières du Nord avec de courtes averses et peut-être un coup de tonnerre avant ce soir du côté du Nord-Pas-de-Calais. Les températures maximales évolueront entre 24 et 29 degrés dans la moitié Nord, comptez 30 à 35 dans la moitié Sud. Ce soir et la nuit prochaine, un front orageux plus organisé va s'étirer tout le long de la façade atlantique entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Nous allons retrouver ces orages demain matin de la Normandie à l'Île-de-France, mais aussi de la Bourgogne à l'Auvergne. Prévoyez un ciel couvert en basse vallée du Rhône et du Massif central aux Pyrénées. Et partout ailleurs, votre matinée sera souvent ensoleillée. L'après-midi, nos orages vont gagner le nord et une bonne moitié est du pays. Des averses orageuses se produiront aussi dans le nord-ouest et l'ensoleillement sera généreux dans les autres régions.